Un podcast France Culture.
Bon, à l'époque, on me parle de télé-réalité, je ne sais pas ce que ça veut dire.
Je me demande si c'est pas le CSA qui a inventé le terme télé-réalité.
Niveau physique, j'aime bien Jean-Edouard.
Avec Kenza, mais comment je délire avec elle?
Ils l'ont vécu, 26 avril 2001, le Loft débarque en France.
Voilà, la télé-réalité m'intéresse dans les mots réalité.
Un podcast produit par Elodie Maillot, réalisé par Charlotte Roux.
Télé-réalité, il n'y a que télé qui existe. La réalité, non, elle n'existe pas. Elle est totalement fabriquée.
La France découvre la télé-réalité avec les débuts de Love Story. 11 célibataires, coupés du monde, enfermés dans un loft de 225 mètres carrés à la Plaine Saint-Denis, y sont filmés en permanence par 26 caméras et enregistrés par 50 micros. Leur seul contact avec l'extérieur, l'équipe de production qui compte un psy. Au bout de 10 semaines, ils ne seront plus que deux gagnants. Les autres auront été éliminés par leurs colocataires et par le public qui vote par téléphone. Premier épisode, le Loft, un Big Brother à la française.
Je m'appelle Alexia Laroche-Joubert, je suis productrice de télévision. Actuellement, je fais Koh-Lanta, Fort Boyard, Miss France. Et en 2001, je lance ce qui va devenir un phénomène, une émission qui s'appelle Love Story. Dans ma carrière, il y a une ligne directrice, c'est la rencontre avec les anonymes et de les mettre en lumière. Et c'est le drive de ma vie. Et un jour, je tombe sur un tout petit article qui parle d'un mec qui s'appelle John de Mol, dont j'avais jamais entendu parler, qui est hollandais, qui a décidé de s'inspirer d'une expérience foireuse canado-américaine où des scientifiques s'étaient enfermés dans une forme de biosphère et au final, ils s'étaient quasiment entretués. Et donc, John de Mol avait l'idée d'enfermer des gens et de les observer dans leur vie pour raconter ça 24 heures sur 24. John de Mol, c'est quelqu'un qui avait fait fortune en faisant Holiday on Ice. Donc, c'est quelqu'un qui avait l'habitude du spectacle. Et il voulait marquer et créer la polémique. Et il avait probablement un instinct très vif de ce que c'est que le buzz. À l'époque, le mot n'existait pas. Ça a quasiment été inventé pour ce programme. Et donc, il s'est dit, je vais taper un gros coup et je vais appuyer sur ce qui pourrait faire peur à tous et à la fois fasciner. Alors, le programme, il va devenir Big Brother et il va être lancé en 2000 en Hollande. Et ça va être un tsunami télévisuel et mondial.
Je suis partie avec beaucoup, beaucoup de a priori. Je me suis dit, mais c'est des fous. Comme ils peuvent faire une émission dans laquelle on enferme des gens, c'est des voyeurs, c'est des exhibitionnistes.
La productrice, Angela Lorente.
Donc j'allais réaliser, j'étais en tant que journaliste réalisatrice. Donc je suis allée faire une enquête de Big Brother. Et en fait, moi qui étais très courte, je commençais à regarder le programme. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est énorme. Donc, c'est au début de la télé-réalité dans le monde. Cette façon de filmer des gens qui vivent ensemble et de filmer et de ne pas savoir ce que tu vas raconter. Donc, je trouvais que c'était super fort.
Au départ, le loft, c'est vraiment un objet extrêmement moderne. C'est presque un prototype de tout ce que l'on vit aujourd'hui.
David Dufresne.
Et donc, à l'époque, Big Brother.
Écrivain et journaliste.
C'est déjà le début de cette idée que finalement, être surveillé, c'est marrant. Donc on va utiliser le terme magnifique d'Orwell pour le retourner, pour en faire une friandise.
Dans un élan de censure judéo-chrétienne, il y avait eu un accord moral entre Nicolas Taverneau, qui était le patron d'M6, et Patrick Lelay, qui était le patron de TF1, de ne pas faire Big Brother. Et Patrick Lelay va signer Survivor, ce qui va devenir Koh-Lanta. Et Nicolas Taverneau va considérer qu'il a rompu cet accord, et il a une phrase fantastique, il dit « J'ai promis de ne pas faire Big Brother, mais j'ai jamais dit que je ne ferai pas Big Sister ». Enfin, les deux sont des filous. Hein. Et ça a démarré comme ça. Va s'en suivre une course contre la montre parce que on apprend que ce qui va devenir Koh-Lanta a déjà été tourné et qu'ils sont en post-production. Et donc on décide de lancer la production là où normalement une production normale aurait dû prendre 5-6 mois, on décide de la lancer en 2 mois et demi pour diffuser avant Koh-Lanta. Alors on se prépare en secret et c'est drôle parce que je dois engager ce qui va devenir mon directeur de production. Je me dis, un mec qui a fait la Coupe du Monde de 98, il doit bien pouvoir faire le loft. Donc je l'appelle et il embarque en 24 heures, il plante son job. Et je me dis, il me faut quelqu'un qui sait parler aux humains, qui a une empathie, qui a un regard sur les humains, qui est curieux d'eux. Et Angela Lorente, en l'occurrence, avait travaillé très longtemps avec la spécialiste des histoires humaines. Et elle va aussi embarquer en même temps. Donc on se retrouve tous les trois. Et là, on se dit, mais comment on lance ce truc ?
moi qui étais très espagnole et très...
Angela Lorente.
Ah, olé, olé, mais j'étais un peu dans la provoque et dans tout ce qui faisait bouger les lignes de la société, hein.
Et donc, après, ça va être des bandes-annonces, tout ça a été secret, où on va construire le loft. Et je me rappelle, on est à la Plaine Saint-Denis. À l'époque, la Plaine Saint-Denis, c'est là où il y a maintenant beaucoup de studios. Mais à l'époque, c'était une zone, quoi. C'était vraiment la zone.
En 2001, j'étais responsable de ce qui allait être mis à l'antenne, à la télévision, devant les spectateurs d'M6. Donc,
Oui, Alexis, de Gemini.
Je regarde la matrice originelle qui s'appelle Big Brother. Et avec l'équipe de production, on a changé pas mal de choses par rapport au concept original pour moins de grossièreté, un casting beaucoup plus frais, pour que le programme soit regardable par un public familial dans sa case de diffusion horaire qui, au départ, était 18h10.
Donc la différence entre les lofts français et Big Brother, il n'y en a pas. Il y en a une seule. Une seule. Dans le Big Brother, les derniers candidats, ils gagnent 100 000 euros. Et dans le loft, c'était un couple. Mais c'était impossible qu'un couple gagne parce que c'est les téléspectateurs qui choisissent. Les téléspectateurs, quand ils ont le power, ils font le couple. C'était quand même la première fois où les téléspectateurs faisaient en direct... Le programme, c'est-à-dire il décidait des héros ou des protagonistes du programme. Et ça, ça n'existait pas avant.
Le titre est venu, je crois que c'est Stéphane Courby qui l'a eu avec Arthur.
Alexia, La Roche-Joubert.
Il y avait cette notion de maison. Et maison, c'est pas très moderne. Donc loft, ça envoie quand même un truc un peu plus jeune, un peu plus moderne. Et story, c'était à cause de Love Story, le film. Et donc loft, story, on trouvait que c'était un petit clin d'œil. Mais c'était beaucoup plus joyeux que Big Brother. Big Brother, c'est dur, hein. C'est très dur, c'est très sombre, c'est très outre-Rhin.
Alors, pour les castings, M6 a dit, on va faire une bande-annonce. Et ils ont fait une bande-annonce dans laquelle il ne fallait pas que TF1 soupçonne qu'on était en train de faire Big Brother. Donc, il y avait une musique un peu ringarde. Et c'était, vous avez entre 18 et 30 ans, vous êtes célibataire, vous avez envie de rencontrer l'amour et vivre une expérience avec des autres célibataires. Envoyez-nous une lettre à telle adresse.
Quand j'ai vu cette annonce sur M6, je me suis dit, pourquoi pas tenter l'aventure.
Julie Mercy, ancienne candidate et aujourd'hui directrice commerciale d'un groupe hôtelier.
Il y avait quand même ce côté paillette qui me plaisait et qui m'interpellait. Donc, ils m'ont dit, on souhaite vous voir. Donc, rendez-vous donc dans des hôtels pour les castings. Je travaillais dans l'hôtellerie. Je n'avais pas la notion, à ce moment-là, qu'il fallait être disponible pendant 3 mois. J'y suis allée plutôt comme un jeu, comme un test, quoi.
Je reçois un coup de fil dans Démol qui me dit, Kenza, on a bien reçu vos photos et votre candidature. Voilà, votre profil nous intéresse. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer ?
Kenza Brega. Aujourd'hui, journaliste.
Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Donc à 23 ans, vous vous dites, voilà, je passe des castings, je réponds aux questions et puis advienne que pourra. Je ne sais pas du tout ce qui allait se passer.
Évidemment, les Hollandais, ils m'ont dit, mais Angela, avec cette bande-annonce, vous dites rien en fait. Vous allez enfermer quand même 12 jeunes filmés non-stop par 30 caméras, 11 micros, enfermés pendant 2 mois et demi sans contact avec l'extérieur, et vous êtes en train de dire qu'ils vont rencontrer l'amour, mais comment vous allez trouver les gens? C'est impossible. Donc eux, ils hallucinaient avec nous, les Hollandais, donc les créateurs du format. Et on a reçu 13 000 candidatures. C'est énorme. Il y avait aussi les débuts de webcam. Et il y avait des milliers et des millions de vues sur des absurdités comme un chat sur un canapé. Donc, tous ces jeunes, ils vivaient là-dedans. Et ils étaient tous prêts à être filmés et être enfermés en plus.
Moi, je venais d'un univers très bourgeois, très bien éduqué, plutôt intello. Angela, elle venait d'un univers de Barcelone, la Movida, très libérée. Et donc, on va de nos deux cultures, de nos deux univers, choisir des gens très différents les uns des autres.
Prends le micro comme il faut et raconte ta vie, fais ce que tu veux là devant la caméra. T'as 2-3 minutes.
Ah, je dois parler devant la caméra ?
Ouais, j'arrive.
Ah, d'accord. Okay.
Lâche-moi.
D'accord, ok. Bien, je m'appelle Jean-Edouard, j'ai 20 ans. Je suis en BTS, action commerciale, et je suis DJ.
On a fait des castings partout, hein. On a fait des castings à Nice, à Lille, à Toulouse, à Marseille, évidemment. Enfin, on a fait des castings un peu partout en France. Et c'était très intéressant parce que tous ces candidats-là pensaient être dans un programme one shot, comme on dit, où ils allaient rencontrer quelqu'un. Ils ne savaient même pas à quel programme ils étaient en train de postuler. On leur disait, ils savaient qu'aujourd'hui tu passais un casting quand même. Pourquoi tu t'es habillée comme ça? Ils disaient, ah bon, pourquoi je pas, il fallait s'habiller comment? Ah bon? Et t'avais ceux qui disaient, mais ça va pas, t'as vu comment je suis bien habillée? Ben toi, t'es bien habillée que moi. Donc, ça, on disait énorme. Celui-là, il est dans l'avion, comme on dit, dans les jargons casting. Quand on veut quelqu'un dans un programme, on dit, il est dans l'avion, ça veut dire, c'est génial, il est génial.
Pardon?
C'est censé être quoi, ces autres, là?
Comment ça, c'est quoi?
Tu l'as fait toi-même, le t-shirt ou quoi?
Ah non, ça, c'est des Marseillais qu'on crée.
Parle dans le micro.
C'est des Marseillais qu'on crée cette marque qui, c'est une marque à l'origine pour les gens qui travaillent la nuit, en fait. Non, mais c'est que je les trouve beaux, les t-shirts. Mmh. Oh, s'il vous plaît pas, de toute façon, vraiment, c'est pareil.
Donc, ils se rendent compte très très vite que je suis plutôt quelqu'un qui mâche pas mes mots.
Qu'elles abrègent.
Donc, tout de suite, ils se disent, bon, la nana, elle a pas sa langue dans sa poche, elle nous plaît. À un moment, il me laisse seule devant la caméra. Le casteur qui était là me lance en fait un défi et me dit voilà, alors je vais te mettre en situation. Imagine, tu es en boîte de nuit. Je suis l'homme qui te plaît. Comment est-ce que tu ferais pour venir me draguer et me le dire? Et donc moi, à l'époque, j'avais pas froid aux yeux, donc je le drague. Dans le processus de casting, en fait, il y avait une étape avec un psychologue. Il vous pose des questions extrêmement intime sur vos blessures, sur ce que vous êtes. Donc évidemment, moi j'étais pleine de blessures parce que j'étais une fille de la guerre. J'ai vécu les deux guerres en Irak. Évidemment, ils n'ont pas eu affaire à quelqu'un qui avait eu une enfance totalement joyeuse, équilibrée, dénouée de toute difficulté, quoi.
Pendant le casting,
Julie, merci.
Je sentais qu'il y avait un scénario et que quelque part, j'étais un peu le quota métisse qui correspondait à leur scénario, la fille un peu libérée. Et je suis allée un peu dans ce sens-là, dans la façon dont je me suis présentée face caméra. Ce qui s'est passé, c'est que mon meilleur ami, qui travaillait à l'étranger, connaissait cette émission et m'avait informé que Big Brother était peut-être quelque chose qui ne correspondait pas pour mon futur professionnel et que je pourrais pas intégrer et rester dans le milieu du luxe hôtelier. Et je me suis désistée, donc j'ai dit à Angela, non, je ne participerai pas. Alexelle Arojoubert qui m'appelle juste une heure après en me disant « Julie, ta réponse, je ne l'accepte pas. Je te laisse le week-end. Réfléchis. » Je suis rentrée à Nantes dans ma famille et c'est là que ma mère m'a dit « Julie, tu as 24 ans. Mieux vaut avoir des regrets que des remords. Fonce. »
Je me dis « C'est pas possible. Je peux pas participer à ce type de truc. J'ai un boulot. J'ai une vie. » En plus, elle me demande d'être libre 3 mois de suite. Donc ça veut dire en fait, il faut que j'arrête mon travail du jour au lendemain, il faut que je déséquilibre toute ma vie et mon quotidien. Et là, elle me rassure, comme une mère protectrice, et elle me dit « Mais t'inquiète pas Kenza, pour tes factures et ton loyer, ne t'inquiète pas, on vous paye tout pendant 3 mois. » Voilà. La productrice, donc qui était Angela Loren, très excitée de ce qu'elle est en train de mettre en place avec Endemol et avec la chaîne M6. Et elle me dit « Tu te rends pas compte Kenza, de ce qui va t'arriver, tu vas vivre une expérience incroyable. » Mais je dis « Mais qu'est-ce que c'est comme expérience ?»« Bah voilà, vous allez être enfermée dans une maison et vous allez vivre dans un endroit clos. Et en gros, vous allez vivre des choses à l'intérieur et on va vous filmer. » 24 heures sur 24. Et du jour au lendemain, je démissionne de mon CDI que j'avais en tant que commerciale. Je lui dis « Écoutez, j'ai un problème familial », sauf que le patron lui-même me découvre genre un mois après sur les écrans de télévision. Clairement, je ne sais pas ce que c'est que la télé-réalité. D'ailleurs, en France, personne ne sait ce que c'est.
Et ça va être du Jean-Édouard Loana, du Laure Delphine, ça va être enfin des gens qui n'avaient rien à voir, qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Je pense que ça a été ça la grande force du Loft, ça a été de mettre des gens très différents de nous. Par contre, ce programme, c'est une histoire d'amour. Quand je vois Big Brother, je tombe amoureuse de ce qui va devenir un genre, donc la télé-réalité. Quand j'étais petite, je voulais être réalisatrice, psy et flic. Donc j'ai fait des études de droit pour être flic. Et en fin de compte, avec le Loft, j'ai tout fait. J'ai filmé des gens que je psychanalysais tout en les enfermant. Je ne devais pas être amenée, en fin de compte, à produire ce programme-là. Stéphane Courbier et Arthur ont rencontré énormément de producteurs beaucoup plus expérimentés que moi, mais qui, pour des raisons X ou Y, ont refusé, soit parce que moralement, ils ne voulaient pas s'associer à ce programme-là, soit parce qu'ils ne pouvaient pas. Et au final, faute de combattants, je suis montée sur le ring. Et là, ça a été un tourbillon parce que personne ne pouvait être préparé à l'ampleur de cette production et à l'accueil que ça allait déclencher.
Moi, je n'étais pas
sûr du succès du projet. Des anonymes, non professionnels, dont on suit la vie pendant 3 mois enfermés dans un loft, ça peut aussi être inintéressant, impossible.